Oui, alors on est en train d'arriver vers la fin de la séance du matin, donc les choses se précipitent un peu. Cet après-midi sera moins concentré comme ça. On va avoir une présentation rapide des recommandations et on aura un grand temps de discussion. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout gardez-les parce qu'elles peuvent réémerger dans le débat sur les recommandations. Là, je vais présenter assez rapidement le cas français et pareil, je pense qu'on prendra les questions pour après, parce qu'on doit faire face aux contingences techniques aussi et voilà. Alors, en France, donc on a aussi une situation particulière. On est dans un pays d'immigration, enfin, qui a une histoire très longue d'immigration, qui commence au siècle dernier. Donc j'ai mis ce petit schéma qui est assez intéressant parce que effectivement, ça montre très schématiquement, mais les différentes générations d'immigration. Première génération d'immigration qui venait surtout des pays limitrophes, en fait, hein, les pays européens. Ensuite une immigration coloniale venue essentiellement du Maghreb et enfin, donc ça c'était dans les années 60 et enfin une immigration dans les années 70, à partir des années 70 qui vient principalement d'Afrique subsaharienne. Ce que vous pouvez essayer d'imaginer maintenant, c'est que quand on observe la diversité des populations immigrées présentes sur le territoire, donc il y a quelques chiffres là, finalement, donc 43% viennent d'Afrique, 37% sont citoyens européens et 14% viennent d'Asie. Vous vous rendez compte que, enfin, vous pouvez vous rendre compte à l'aide du schéma précédent que finalement c'est plutôt des jeunes qui viennent d'Afrique et plutôt des anciennes générations qui viennent d'Europe. Même si les tendances de la migration fluctuent et que dans les dernières années on a eu plus d'arrivées d'Européens que les années précédentes. Mais enfin voilà, en gros schématiquement. Une autre chose à retenir, alors on a comme en Angleterre, tout un tas de différentes catégories pour chiffrer, essayer de chiffrer les populations. Il y a une différence entre immigrants, étrangers, etc. Donc je ne suis pas trop rentrée dans ces détails-là ici. Simplement, on peut remarquer qu'on a beaucoup plus de descendants d'immigrés que d'immigrés. Hein, donc 5,8 millions d'immigrés et 6,7 millions de descendants d'immigrés. Donc qui peuvent porter la culture de leur pays, du pays d'origine de leur famille, mais qui sont déjà partiellement intégrés, mais qui rencontrent souvent les mêmes problèmes de discrimination que en atténué, hein, mais que les primo-arrivants. Voilà. 20% des salariés. Je suis en train de jongler entre l'anglais et le français. Vous voyez là, le multilinguisme en plein. Voilà. Donc 20% des salariés, des travailleurs sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés. Donc ce qui fait une population dans les entreprises quand même assez importante. Alors maintenant, si on s'intéresse à la diversité linguistique, en France, on a recensé à peu près 400 langues parlées. Et environ 75 de ces langues sont dites langues de France, ce qui veut dire que c'est soit des langues régionales, soit des langues qui ne sont attachées à aucune nation, en fait, comme par exemple le yiddish, ou, enfin, qui ne sont attachées à aucun territoire plus exactement. Voilà, donc 75 langues considérées comme langues de France. Les langues les plus fréquemment parlées au-delà du français donc, sont l'arabe dialectal, les créoles et les langues berbères, l'alsacien, l'occitan, le breton et les langues d'Oïle. Et les langues parlées varient selon les générations. On trouvera davantage de locuteurs pour les langues arabes chez les jeunes. Que de locuteurs de langues européennes, par exemple. Et les langues de l'immigration sont aussi beaucoup plus fréquentes en métropole. Enfin, dans les métropoles. Alors, si on s'intéresse maintenant au cadre législatif national, donc, il est assez récent, finalement. Hein, le français est introduit dans la Constitution comme langue de la République en 1992. En 1994, donc assez rapidement derrière, on a la loi dite Toubon, qui stipule que la langue française est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, et donc quel est le lien privilégié des États constituant la communauté de la francophonie. Donc là, on voit que il est donné un rôle important aux Français, et en 2001, on a donc cette reconnaissance des langues de France dont je parlais. Il était envisagé une loi qui n'a jamais été mise en place. Donc en fait, par contre, on a assisté à la création de la délégation générale à la langue française et aux langues de France en 2001. Et enfin, en 2008, les langues régionales sont reconnues par la Constitution comme faisant partie du patrimoine de la nation. Alors maintenant, quelles sont les conséquences de tout ça dans le domaine du travail ? La législation du travail comporte trois sources principales. Je vois l'auteur qui sursaute à son nom, donc à la citation de son nom. Mais effectivement, bon, voilà, il y a trois sources. Donc le cadre national que je viens de citer, les articles du Code du travail qui découlent en fait de ce cadre national et qui vont porter sur les annonces d'emploi, par exemple, sur l'idée que le contrat de travail doit être rédigé en français, etc. Et puis, troisième source du droit, c'est le droit des affaires, avec ce principe qui est au cœur du droit des affaires, c'est le principe de la liberté économique. Donc, si un employeur a besoin de communiquer dans une autre langue que le français pour raison d'affaires commerciales, etc., il est bien sûr autorisé à le faire. Ce qu'on observe, c'est une faiblesse extrême du droit linguistique conventionnel. Hein, donc il est inexistant dans les accords de branche, il est inexistant dans les accords nationaux. Et il est assez faiblement présent dans les grandes entreprises, donc le droit conventionnel linguistique, hein, bien sûr. Maintenant, si on va en deçà du droit et qu'on regarde l'usage des langues étrangères, on s'aperçoit que, en fait, le droit est quand même plus ouvert qu'il n'est en apparence et que, par exemple, l'information et la formation relative à la santé et au travail doivent tenir compte de la langue parlée ou lue du travailleur. Donc ça, c'est un règlement dans le Code du travail. Un salarié étranger peut demander une traduction de son contrat de travail dans sa langue. Seule cette version-là, donc la version dans sa langue, pourra lui être opposée. Donc le français n'aura donc pas valeur juridique ici. Les documents de travail reçus de l'étranger ou destinés à l'étranger peuvent ne pas être en français. Ça, c'est ce qui découle du droit des affaires. Et récemment, on a eu un article de cassation sociale précisant que dans l'aéronautique, l'usage de l'anglais s'impose pour des raisons de sécurité. Hein, donc suite à des plaintes dans une compagnie aérienne. On observe, dans tout ça, finalement, on observe un usage croissant de l'anglais. Donc, c'est pas tant la diversité linguistique qui est en train d'émerger, mais plutôt une espèce d'uniformisation par l'anglais. Donc, un salarié sur quatre doit parler ou écrire dans une autre langue, nous explique le Centre d'études de l'emploi. Mais en fait, cette autre langue, c'est en général l'anglais. On a des métiers qui sont particulièrement dominés par l'anglais, donc ils ont été identifiés comme étant l'informatique, la finance, l'aéronautique, l'électronique, l'industrie pharmaceutique et l'hôtellerie. Et ce poids croissant de l'anglais est en fait perçu comme un facteur de stress et de dégradation des conditions de travail. Et ça, ça renvoie notamment à tout le travail fait par la CGC hein, autour des conditions de travail en partenariat, je pense, avec l'ANACT. Voilà, alors je me présente assez rapidement mon terrain. Je vois que le temps court à une grande vitesse là. La préparation de l'enquête s'est faite essentiellement avec au travers d'entretiens avec des experts. J'ai eu l'opportunité d'assister à un colloque organisé par la Direction générale à la langue française et aux langues de France et à une journée d'études de l'Association des managers de la diversité. Donc ça a été d'un énorme apport en fait pour un peu cadrer l'enquête de terrain. Ensuite, les études de cas ont été réalisées dans deux secteurs d'activité, donc dans la propreté et dans la santé. Et une troisième étude de cas a été réalisée dans une permanence de travailleurs sans papier. Et des données complémentaires ont été collectées dans les secteurs de la construction et du travail intérimaire, et notamment dans le secteur de la construction. J'ai pu bénéficier des rushs vidéo faits pour la préparation d'un webdoc, justement piloté par la CGC et en partenariat donc avec une convention partenariale avec le CNRS et l'association Demain nos langues. Voilà, alors sur le secteur de la propreté, c'est un secteur donc en forte croissance économique, près de 500 000 salariés dans ce secteur en 2012. Un secteur qui est fortement concentré. Hein, il y a beaucoup de petites entreprises, mais elles sont, finalement, elles emploient peu de monde et le gros des effectifs du secteur est employé par des multinationales énormes. Hein. 90% de l'effectif employé sur des postes faiblement qualifiés. Hein, les femmes sont 67% des salariés et les travailleurs étrangers 29%. On a une forte précarité dans ce secteur qui est liée aux relations triangulaires en fait entre employeurs, donc entre donneurs d'ordre en fait, sous-traitants, donc qui est l'employeur, et les salariés. Quand le chantier change, les salariés peuvent rester sur place et être donc quelque part transmis à l'entreprise suivante. Donc, ce qui pose des tas de problèmes en termes de pérennité de leurs droits. Par contre, c'est une précarité qui est essentiellement liée à ces relations triangulaires. Par contre, il y a beaucoup de contrats permanents, mais les gens sont à temps partiel, ce qui fait des très faibles salaires. Donc les entretiens là ont été conduits dans une entreprise aéronautique et puis j'ai conduit d'autres entretiens dans une permanence de sans-papiers qui était spécifiquement dédiée au secteur du nettoyage. Alors ce que j'observe très brièvement, c'est que en théorie la langue officielle de l'entreprise c'est le français. La convention collective reprend quand même les obligations légales d'information dans la langue des salariés pour ce qui est de la santé et de la sécurité. Beaucoup de langues finalement sont parlées informellement sur le lieu de travail et elles sont très tolérées par l'employeur, on va dire, parce que finalement elles permettent de transmettre les consignes de travail. Sans cette permissivité, beaucoup de salariés seraient en incapacité de réaliser leur travail et de respecter les consignes de sécurité, en fait. Les formations en langue dans le secteur, alors ça, c'est des données que j'ai trouvées dans les documents patronaux. Apparemment, les formations en langue ne représentent que 5% du total du volume des formations dispensées. Donc j'ai des discours très contradictoires sur l'accès aux formations. D'un côté, les responsables syndicaux me disent oui, c'est très facile d'y accéder. D'un autre côté, les salariés que j'ai interviewés me disent qu'elles ne se sont jamais vues proposer de formation. Un autre facteur qui va jouer en défaveur des salariés, notamment en termes de capacité à faire... reconnaître leurs droits, ça va être leur isolement au sein des chantiers. Hein, dans l'entreprise aéronautique, on a une femme de ménage par étage de bâtiment, par exemple. Plusieurs salariés m'ont expliqué travailler quand même relativement seul dans leur... avoir un poste attribué et être assez seul pendant toute la journée, ne pas se voir entre eux. Donc, certains délégués syndicaux ont indiqué qu'ils avaient des difficultés d'accéder au site, donc pour faire leur tournée de représentants du personnel, par exemple. Voilà, donc on a des soucis et qui sont d'autant plus forts si les salariés ne parlent pas bien le français. Je saute très rapidement au secteur de la santé. Là, donc plusieurs entretiens un peu éclatés, en fait, deux entretiens conduits dans un hôpital régional de la région parisienne, un autre conduit auprès de quelqu'un qui travaille dans un autre hôpital régional en province, un autre entretien dans un service de médecine du travail basé dans un grand centre de recherche international, et un autre entretien d'un psychiatre dans un centre de santé. Ça, cette étude de cas va être poursuivie. En fait, j'ai encore d'autres personnes à rencontrer. Donc, j'ai décrit les profils et nous voilà déjà dans les résultats. Donc, les langues de travail. Alors là, la langue de travail, c'est le français. Hein, sur tous les lieux de travail, c'est clair. Mes interlocuteurs m'ont bien dit, et fait remarquer qu'on est dans la fonction publique. De toute façon, il n'est pas question d'avoir d'autres langues de travail. On est censé parler le français quand on est embauché. Donc là, voilà, c'est assez... et c'est pas toléré, en fait, de parler entre membres du personnel, de parler sa langue maternelle. Hein, donc ça peut arriver, on m'a mentionné que ça pouvait arriver. Les gens qui m'ont mentionné qu'ils connaissaient des collègues parlant leur langue maternelle aux pauses ou je ne sais quoi, le toléraient assez mal en fait, et qu'il y avait des rappels à l'ordre quand même qui étaient effectués auprès du personnel. Par contre, la patientèle, aussi bien de l'hôpital que du centre de santé que du service de médecine du travail, cette patientèle, elle vient d'origines très diverses. Et au final, il y a des francophones, mais il y a énormément de langues représentées. Et donc là, il faut pouvoir mettre en place des outils, finalement, pour communiquer avec la patientèle. Alors, à ma grande surprise, c'est que ce n'est pas du tout un problème, nouveau, c'est un problème même très ancien, récurrent. Et finalement, ça ne donne pas lieu à un traitement très systématique, d'après ce que j'ai pu observer. Les uns m'ont dit bah oui, on a une liste du personnel qui parle des langues étrangères. Cette liste est détenue par la DRH et quand on a un souci, on fait appel à la DRH qui nous indique le collègue dans l'hôpital à 1 kilomètre de couloir plus loin qui va parler la langue qui nous intéresse, etc. Bon, d'autres m'ont indiqué qu'ils pouvaient avoir accès à un service d'interprète. Là, j'ai deux versions. J'ai une version hôpital qui me dit oui, oui, ça existe et vraiment, si on est bloqué, on peut appeler ce service. Et j'ai une autre version du psychiatre dans le centre de santé qui me dit moi, j'accepte de faire mes consultations en russe. Donc, c'est un Français qui a appris le russe par passion, en fait, donc qui fait des consultations en russe. Et il me dit j'ai dû négocier très fort pour avoir une formation plus élaborée. Parce que s'ils prennent un interprète, ça va leur coûter les yeux de la tête. Donc voilà, les interprètes, on ne sait pas comment c'est... Enfin, pour le moment, je dois éclaircir la question, mais je ne sais pas à quel degré c'est accessible dans le secteur de la santé. Et puis, dernière forme de débrouille, on va dire, l'infirmière du service de médecine du travail me dit « Ah, ben moi, je recours au dessin, etc. » Donc, elle fait ses schémas de bonhomme. Et puis, j'ai un dictionnaire la médecine en anglais. Et voilà, et donc, elle procède par approximation comme ça. Elle a quand même c'est des post-doctorants qui viennent dans ce centre, qui viennent du monde entier, quoi. Donc, c'est... voilà, c'est tout ça est assez empirique. Les accès à la formation en langue sont... Bah là, j'ai des discours très divergents aussi. Hein, certains me disant qu'ils n'ont pas de problème pour accéder à des formations, d'autres me disant qu'ils n'ont absolument pas le temps et que c'est absolument impossible. Voilà. Et j'ai posé la question... dans mes interviewés, j'avais des gens qui étaient syndiqués, donc je leur ai demandé si quand même ils soulevaient ce problème des langues dans leur réunion syndicale, Ils m'ont dit que effectivement, c'était pas du tout au centre de leur réunion syndicale et que finalement, ça concernait la patientèle. Voilà, mais ça, donc, ce à quoi j'ai répondu, mais ça concerne aussi vos conditions de travail. Mais là, bon, donc à poursuivre. Je saute à ma troisième étude de cas. Donc là, cette étude de cas a été conduite donc, dans la permanence syndicale des travailleurs sans papier. Les entretiens ont été réalisés au sein d'une confédération française fortement impliquée dans les grèves de sans-papier qui ont conduit à la régularisation de plus de 7000 travailleurs clandestins. Évidemment, je dois anonymiser, vous aurez tous reconnu qu'il s'agit de la plus grande confédération, hein, de la CGT, une des deux premières françaises. Une permanence a été mise en place en 2014 pour s'assurer de la bonne application des nouveaux décrets obtenus et pour syndiquer ces travailleurs et combattre les pratiques de dumping social. Donc en fait, les décrets obtenus, c'est dans toutes les grèves pour la régularisation des sans-papiers, finalement, il y a un certain nombre de décrets qui ont pu être obtenus pour mettre en place des critères de régularisation précis. Et ces critères vont être l'épine dorsale du travail en fait de la Confédération sur les régularisations. Apparemment, 70 à 80 cas de travailleurs irréguliers sont identifiés chaque semaine, donc se présentent chaque semaine à la permanence. Et le traitement des cas se fait en plusieurs étapes, donc avec une première rencontre très rapide et ensuite un travail plus approfondi sur le cas. Alors là, par contre, c'est le cas où j'ai pu mener moi-même des observations, donc être dans la permanence à plusieurs reprises et aux différents niveaux de la permanence. Donc j'ai pu observer qu'effectivement le français était la principale langue d'échange, hein, avec des nationalités quand même très diverses accueillies. Dans l'accueil de premier niveau, on a un accueil aussi qui peut se faire en anglais. Donc, on a une personne qui parle anglais. La plupart des permanents syndicaux sont français, mais ils se sont adjoints l'aide de sans-papiers en fait, qui ont fréquenté la permanence. Et donc, ça leur permet quand même d'avoir des conversations en anglais, en bambara, en peul et en chinois. Voilà. Donc ces membres de nationalité étrangère ont été inclus finalement avant tout pour leurs compétences linguistiques dans le travail de la permanence. Quelques tracts et formulaires commencent à être produits à nouveau, et je dis à nouveau parce que là cette confédération donc avait une tradition de produire du matériel en langues étrangères. Ça s'était un peu arrêté et là elle recommence à produire quelques tracts en langues étrangères. Mais on peut se rendre compte que finalement la barrière linguistique reste un obstacle très important dans le traitement des dossiers de régularisation du fait de la complexité des situations. Bon, j'ai assisté à des scènes hein, où les personnes essayent d'expliquer leur situation avec des employeurs multiples, des filtres en fait entre eux et l'employeur, des fois hein, des intermédiaires. Et évidemment, le manque de maîtrise de la langue et la complexité de la situation fait que le cas est très long à traiter. Un permanent passe en moyenne une heure avec un sans-papier quand il faut vraiment essayer de débroussailler le dossier. Et c'est plusieurs rendez-vous. Moi, j'ai eu un rendez-vous d'une heure, il y en a d'autres après. Voilà, donc... La question que je me posais quand même, c'est dans quelle mesure cette permanence peut aider à l'intégration de ces travailleurs migrants dans la Confédération et finalement les aider aussi à représenter leurs droits. Alors des conclusions provisoires, maintenant très vite. Donc la législation linguistique du travail apparaît largement non respectée, aussi bien en ce qui concerne l'usage de l'anglais au travail qu'en ce qui concerne le droit des travailleurs immigrés. Le plurilinguisme, pardon, des salariés n'est pratiquement jamais reconnu. Et donc là, on trouve une confirmation des observations de Florence Mourlon-Daliès et de Jette Milbank-Peterson, qui ont toutes les deux écrit sur la question. Et on assiste finalement à un processus invisible de discrimination raciale et sociale sur la base du type de langue parlée et du niveau de maîtrise des langues dominantes. En fait, voilà, en résumé, en très vite, ce que